Donc, quand on dit la Bible, il y a un certain nombre de mots qui nous viennent à l'esprit. Le mot Bible, c'est pas un mot, c'est un mot français. La Bible, Bible, il y a même un adjectif, biblique. On peut dire des études bibliques, une réunion biblique, un groupe biblique. Donc la Bible. Mais ce mot, il vient d'un autre mot, qui est un mot grec. Et le mot grec, biblos, biblos, ça a donné Bible. Oui, c'est presque le même mot, biblos, Bible. Et biblos, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire livre. Donc la Bible, ça veut dire livre. La Bible, c'est un livre. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est un livre. La Bible, c'est un livre. Et c'est un livre parmi d'autres livres. C'est-à-dire que, en grec, qui est la langue qu'on parle chez les Grecs, en Grèce, c'est une langue qui est encore parlée aujourd'hui, par des millions de gens, lorsqu'on veut acheter chez le libraire un livre, on demande un biblos, un livre. La Bible, c'est un livre parmi d'autres livres. Première chose, la Bible, c'est un livre. Deuxième chose, la particularité de la Bible. Voilà une Bible. La Bible. La particularité de la Bible, c'est qu'en fait, c'est pas, mais Marie-Vonne vous l'a peut-être déjà dit, c'est pas un livre,
c'est deux.
C'est plusieurs livres.
Ah oui, c'est vrai.
Il y en a 5, il y en a 10, il y en a 25, il y en a 50. Il y a plusieurs livres. Donc, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est une bibliothèque. Si vous allez dans une bibliothèque, j'ai failli y emmener, mais je me suis dit que c'était trop lourd, j'ai failli emmener une quinzaine de livres. Je vous aurais mis 15 livres. Voilà, là, vous aviez une petite bibliothèque. Imaginez qu'il y ait 15 livres ici, vous voyez, comme ça, voilà. Imaginez qu'il y en ait 15, ou qu'il y en ait 25. Ça fait une petite bibliothèque, c'est-à-dire un endroit où il y a des livres. Eh bien, la Bible, ce sont des livres, mais ils sont tous reliés ensemble. Vous voyez ce que c'est une reliure? La reliure, c'est ça. Ça, et puis ça derrière. Ils sont reliés. C'est-à-dire qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Ils sont attachés l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. La Bible, c'est une collection de livres, une bibliothèque, une collection de livres, qu'on ne peut pas détacher les uns des autres. C'est pour ça qu'il y a un volume, la Bible. Et là-dedans, il y a un livre, par exemple, qui s'appelle « La Genèse », on travaillera ça les prochaines fois, un livre qui s'appelle « La Genèse », dans laquelle il y a la création, le récit de la création, dans laquelle il y a l'histoire d'Abraham, dans laquelle il y a l'histoire d'Isaac, dans laquelle il y a l'histoire de Jacob et de Joseph. Donc il y a de nombreux chapitres, et il y a ces histoires-là, des histoires, comme l'histoire d'Abraham. Et puis, il y a aussi un autre livre qui s'appelle le livre du prophète Isaïe. Donc, c'est un monsieur qui a donné un enseignement aux alentours de 550 avant Jésus-Christ. Peu importe, on reverra ça après. C'est un prophète. On expliquera ce que veut dire un prophète. C'est un monsieur qui a donné un enseignement de la part de Dieu. Et c'est un autre livre, Isaïe. Pour l'instant, on a Genèse, Isaïe. Et puis, il y a un autre livre qui s'appelle l'Évangile de Luc. Alors, l'Évangile de Luc, ça raconte l'histoire de Jésus. Voilà un autre livre. Et entre ces livres-là, il y en a des tas d'autres. Il y a l'Exode, il y a les Nombres, il y a le Lévitique, il y a le Deutéronome, il y a le premier livre des Rois, il y a le deuxième livre des Rois, il y a le premier livre de Samuel, il y a le deuxième livre de Samuel, il y a le premier livre des Chroniques, il y a le deuxième livre des Chroniques, il y a le prophète Isaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, le prophète Jonas, le prophète Abdias, le prophète Daniel, etc., etc. Il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Luc, il y a l'évangile de Jean, il y a plusieurs lettres de Paul, il y a deux lettres de Pierre, il y a la lettre de Jacques, il y a trois lettres de Jean, il y a l'Apocalypse et il y a la lettre aux Hébreux. Ça fait beaucoup de livres. Tous ces livres, ils sont dedans et ils sont reliés. Ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer. Alors une première chose qu'on peut déduire de ça, c'est que l'évangile de Luc, dans l'évangile de Luc, il nous est raconté des événements qu'a vécu Jésus. On nous raconte aussi son comportement, comment il se conduit, comment il regarde les gens, comment il leur parle, comment il s'approche d'eux, comment parfois il n'est pas d'accord avec eux. Donc cet évangile de Luc, il est à l'intérieur de la Bible. Il ne peut pas être séparé des autres livres. Il ne peut pas être séparé du livre de la Genèse où on nous raconte l'histoire d'Abraham. Il ne peut pas être séparé des lettres de Paul qui s'adressent à des petites communautés. Voilà, petites communautés qui se réunissent. Et l'apôtre Paul, il leur dit, ben voilà ce qu'il faut faire. Et je vous rappelle qui est le Christ. Donc ça veut dire que quand nous lisons l'Évangile, l'Évangile, il n'est pas séparé comme ça. L'Évangile, ce n'est pas un livre qu'on trouve comme ça sur une table. L'Évangile, il est dans ce livre. Il est relié aux autres. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la Bible, c'est une collection de livres qui sont tous attachés les uns aux autres et qui ne peuvent pas être séparés. Ça veut dire que nous, chrétiens, nous ne sommes pas seulement ceux qui lisent le Nouveau Testament, nous sommes ceux qui lisent le Nouveau Testament attaché à l'Ancien Testament. Attaché aux deux. Voilà. Donc, la Bible. Un livre. Des livres reliés les uns aux autres. Est-ce que là, vous avez des questions par rapport à ça? Parce qu'il faut bien comprendre ça. Hein? Un livre, et il y en a plusieurs. Si vous regardez la table des matières, il y a une table des matières, au début, voilà toute la liste. Des livres. Et à côté, il y a les numéros des pages. Ouais, ça fait une grande liste. Et ça, c'est pas les numéros des chapitres, c'est les noms des livres. C'est pas comme quand on lit un chapitre où il y a 10, un livre où il y a 10 chapitres. Non, là, c'est un livre où il y a plusieurs livres. Alors maintenant, vous allez regarder la Bible. Vous allez regarder cette Bible. Chacun, vous allez l'ouvrir. Vous allez la regarder pendant 10 secondes ou 15 secondes. Et après, on parlera là-dessus. Donc, vous l'ouvrez simplement. Et vous la passez au voisin quand vous avez ouvert. Attends, il faut la prendre du bon côté. Voilà, il faut la prendre de ce côté-là. Voilà. Voilà. Non, il n'y a pas de commentaire. On ouvre la Bible.
C'est à l'envers.
Voilà, tu ouvres la Bible.
Ah, la belle. Ma surprise.
Non, faut ouvrir le livre.
Je suis sur le démon là.
Voilà. Donc, vous avez vu un livre.
Oui.
C'est la Bible. Mais c'est l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament,
oui,
ou ce qu'on appelle le Premier Testament. Vous voyez que si vous lisez dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. On expliquera pourquoi plus tard. Dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, si vous lisez la vie d'Abraham, vous allez bien sûr la lire en français. Mais la vie d'Abraham, elle n'est pas écrite en français, elle est écrite en hébreu. Voilà l'original. Ça veut dire que la Bible que vous lisez, c'est une traduction. C'est une traduction. Bon, c'est important à réaliser ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs traductions. Parce qu'on peut traduire les choses d'une manière différente. Je vais vous prendre un exemple. Dans l'Évangile, lorsque Jésus y rencontre des hommes ou des femmes, de temps en temps, il leur dit quelque chose. Il leur dit « accoulété ». Peu importe. Vous entendez, c'est un mot qui n'est pas français. Akouleté, c'est grec. Quand on regarde dans le livre grec, je verrai tout à l'heure, un peu plus loin, ce qui est marqué, c'est akouleté. Et akouleté, dans certaines Bibles, c'est accompagne-moi. Et dans d'autres Bibles, c'est suis-moi. Parce que le verbe grec, ça veut dire accompagner ou ça veut dire suivre. Donc le traducteur, toi, moi, si je traduis, je me mets avec mon crayon, je lis accoulété et je vais marquer suis-moi ou bien je vais marquer accompagne-moi. Donc, il y a deux manières de dire. Une traduction, ça peut être différent. Donc, la parole de Dieu, parce qu'il était dit que c'était la parole de Dieu, la Bible, mais on reviendra là-dessus, évidemment, tout au long de l'année, la parole de Dieu, elle est traduite dans un langage d'hommes et de femmes du 20e siècle, enfin, du 21e maintenant. On ne traduisait pas au 4e siècle après Jésus-Christ, comme on traduisait au 16e siècle, comme on traduit aujourd'hui. Parce que les mots ont changé et surtout le contexte a changé. Donc on reviendra sur la traduction parce que on fera des exercices là-dessus. avec des traductions de plusieurs Bibles. Alors, retenez une chose, c'est que l'Ancien Testament, il n'est pas écrit en français. Il est écrit en hébreu. Maintenant, vous prenez ça et vous ouvrez le livre. Vous faites attention parce que celui-là, les pages sont très fines.
Attention.
Vous l'ouvrez, vous ne froissez pas trop les pages. Les pages sont très fines. Il faut juste regarder. Voilà. Alors ça, c'est un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est là où il y a les quatre évangiles, les lettres de Paul, et puis quelques autres lettres, Jacques, Jean, Pierre, l'Apocalypse. Un Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, il est écrit non pas en français, mais en grec. Donc ça, c'est l'écriture grecque. C'est du grec. Donc vous avez dans la Bible, voilà la Bible, cette Bible-là, vous allez l'ouvrir, pareil, vous regardez si c'est une langue que vous connaissez ou pas. Mais vous ne dites rien. Voilà. Donc ça, c'est une Bible qui est en français.
Il y a trois Bibles différentes.
C'est-à-dire que c'est une traduction.
Ah oui.
C'est une traduction. Vous voyez, que je veux vous faire comprendre, c'est que la Bible qui est en français, c'est la seule que nous oui. allons travailler ensemble, que nous allons lire. Parce que le français est notre langue. Donc on parle en français. Nous serions grecs, nous parlerions avec une Bible en grec. Nous serions anglais, nous parlerions avec une Bible en anglais. Voilà. Nous serions espagnols, nous parlerions avec une Bible en espagnol. Parce que pour que je puisse comprendre le texte qui est en hébreu et le texte qui est en grec, j'ai besoin d'une traduction. Mais le texte original, il est en hébreu ou il est en grec ? Donc ce sont des traductions que nous avons. Voilà. Donc, est-ce que là-dessus c'est clair ou est-ce qu'il y a des questions là-dessus ?
Moi,
oui, vas-y.
Mais pourquoi c'est marqué en grec? Jésus, c'était pas un grec. C'était un juif. Pourquoi c'est marqué en grec?
Oui, alors c'est une bonne question. Alors, Jésus était juif. Ça veut dire qu'il parlait une langue qui était très proche de l'hébreu, qui s'appelle l'araméen. Ça s'écrit exactement comme l'hébreu, mais c'est un tout petit peu différent. La différence, c'est la différence qu'il y a entre le français et l'espagnol. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont les mêmes, ça se ressemble, mais quand on regarde d'un peu plus près, on ne comprend pas. Donc, Jésus, il parlait l'araméen. Mais quand il allait à la synagogue, c'est le lieu du culte, on dirait aujourd'hui c'est comme une église, hein. Il y a encore des synagogues aujourd'hui, puisque les Juifs se rassemblent dans une synagogue, c'est un lieu pour la prière. Lorsque Jésus se rendait à la synagogue, à Nazareth, à Capharnaüm, ou lorsqu'il allait dans le temple, à Jérusalem, Jésus priait en récitant des psaumes. Vous avez déjà entendu parler des psaumes. Et Jésus récitait les psaumes, ce sont des prières, des cantiques, il les récitait en hébreu.
Hébreu, c'est la langue juive.
L'hébreu, c'est la langue que parlaient les juifs à l'époque de Jésus et que parlent encore les juifs quand ils sont dans le culte ou quand ils connaissent l'hébreu et les juifs qui sont en Israël. Donc c'est une langue qui se parle encore aujourd'hui. Donc Jésus, à l'époque, il parlait une langue très proche de l'hébreu, et puis il entendait lire la Bible dans la synagogue en hébreu, et puis il priait les psaumes en hébreu. Et puis Jésus, il a rassemblé des apôtres autour de lui, puis il a rassemblé des disciples. Il y en avait beaucoup. Il y avait des hommes, des femmes. Ces hommes et ces femmes, lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, lorsque les apôtres et les disciples ont compris que Jésus était vivant après sa mort, c'est ça la résurrection, hein, qu'il était vivant après sa mort, et lorsqu'ils ont reçu en eux le Saint-Esprit, ils se sont mis à dire à tout le monde autour, à tous les voisins, vous savez, Jésus, il est vivant. Jésus, il nous fait connaître Dieu. C'était pour eux une grande nouvelle. Donc ils le disaient à leurs voisins de palier, ils le disaient à l'épicier du coin, ils le disaient au café du commerce du coin, ils le disaient là où on attendait un âne pour aller à 4-5 km de là faire des courses. Ils le disaient aux ceux qui travaillaient dans les champs. Il le disait à tous les gens qu'il rencontrait. Jésus, il nous donne la vie. Jésus, il est venu pour nous sauver du malheur. Donc il disait ça comment? En araméen, puisqu'il parlait l'araméen. Hein, il parlait dans leur langue. Si moi je vous dis que Jésus est vivant et qu'il peut faire de grandes choses au milieu de nous, je ne vais pas vous le dire en russe. Je ne sais pas le russe. Je vais vous le dire en français. Pourquoi je vais vous le dire en français? Pour que vous puissiez comprendre. Hein, autrement, ça ne sert à rien. Donc les apôtres et les disciples, ils le disent en araméen. Et puis, quelques années après la résurrection de Jésus, les apôtres se disent, mais on ne va pas seulement prêcher l'évangile à Jérusalem, ou à Capharnaüm, ou à Nazareth, ou à Bethléem, ou à Cana, c'est-à-dire en Israël, là où on habite, à quelques kilomètres de là où on habite, mais on va monter plus au nord, on va aller vers l'est, on va traverser la mer, on va aller jusqu'en Italie. Et là, imaginez, je suis Pierre, et je vais jusqu'à Rome. Je me trouve devant des hommes et des femmes qui parlent le latin. Est-ce que je vais leur parler en araméen? Micheline, à ton avis?
Non.
Ben non.
Qu'il comprendrait pas.
Parce qu'il ne comprendrait pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les apôtres, tout à fait au début, ils sont allés dans la Turquie d'aujourd'hui, dans l'Irak d'aujourd'hui et dans l'Italie d'aujourd'hui. Donc ils sont allés, voilà, dans tout le bassin méditerranéen, mais très loin, parce qu'ils sont allés jusqu'en Irak. L'Irak d'aujourd'hui, ça ne s'appelait pas l'Irak à l'époque. Et puis là, ils ont parlé à des gens... Hein? Oui, alors, en Grèce aussi, enfin, Italie, Grèce, voilà. Le bassin méditerranéen, ce qui est autour de la Méditerranée. Et puis là, ils sont arrivés dans des communautés juives. Ils ont d'abord prêché aux Juifs, sont arrivés dans des communautés juives qui parlaient, Chantal, grec.
Ah, grec. Mais grec, c'est la langue...
C'est la langue de la Grèce, mais la Grèce, la langue grecque, c'était la langue de la culture. Non, c'était la langue de la culture, c'est-à-dire dans les lieux de prière, dans les lieux de théâtre. Il n'y avait pas de cinéma à l'époque, mais il y avait déjà du théâtre. Dans les lieux de les gens qui se réunissaient pour faire des conférences, on faisait tout ça dans la langue grecque.
Dans leur livre des Juifs, là, exemple, aujourd'hui, c'est leur prière. Donc, ils prient en grec.
Non. Ça. Non, aujourd'hui, c'est différent. Là, on est en l'an 50 après Jésus-Christ. Hein? Puisque tu me demandes pourquoi c'est écrit en grec. Je te l'explique. Je te dis qu'il y a les apôtres qui vont dans des communautés où on parle grec. Et du coup, ils parlent de Jésus en grec. Et dans les communautés, mais ça on y viendra une prochaine fois pour savoir comment ils ont été écrits, les évangiles. Mais je vous en dis quand même un mot. Comment ça se passe? Il se passe que vous avez un apôtre, il s'appelle Marc par exemple. Vous savez qu'il y a un évangile de Marc. Marc, il se retrouve dans une maison. Et on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec Marc, 9. Et Marc, il dit, vous savez, moi, j'ai entendu un apôtre. Marc, ce n'est pas un apôtre. J'ai entendu un apôtre qui m'a raconté une histoire. Un jour, Jésus, il était sur une colline, sur une montagne, et puis là, il y avait des tas de foule autour de lui. Peut-être des milliers. Et là, Jésus, il s'est levé. Et puis, il a ouvert la bouche et il s'est mis à crier en disant « Heureux vous les pauvres, le royaume des cieux est à vous. Heureux vous les doux, etc. » Et donc, Marc raconte. Et vous, qui êtes la première petite communauté dans une petite ville, vous êtes réunis dans une maison. Hein, faut pas imaginer, c'est pas les grandes cathédrales au début. Au début, c'est des petites communautés, des gens qui se réunissent. Hein, on invite les amis, on dit, tiens, viens, il y a un gars qui s'appelle Marc, il va nous raconter des choses sur quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il paraît qu'il est venu pour nous sauver. Alors les gens viennent, ils sont curieux. Et Marc, il raconte. Il dit un jour... Jésus, il était à Jéricho. Il était avec ses disciples, ses apôtres. Puis à Jéricho, il a guéri des malades. Il a parlé dans la synagogue. Puis à un moment donné, c'était temps qu'il parte à Jérusalem. Alors il est sorti de Jéricho. Et derrière Jésus, vous rendez compte qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'il y avait une grande foule. Et les gens qui sont dans la maison, ils écoutent Marc. C'est une histoire, on se demande ce qui va se passer. Et Jésus dit, sur la route, sur le bord du chemin, il y a un petit bonhomme, on le connaît dans la ville de Jéricho, il s'appelle Bartimée. C'est le fils de Timée. C'est un mendiant. C'est un mendiant parce qu'il est aveugle. C'est toujours Marc qui continue de parler. Il raconte une histoire qui est arrivée à Jésus. Et Bartimée, il a entendu que c'était Jésus. Alors, à ce moment-là, il y a quelqu'un par exemple Claudine, qui demande à Marc, oui mais, c'est, ça mais, tu racontes cette histoire-là, mais tu l'as entendu comment? Ah mais c'est un apôtre qui me l'a raconté, il était à côté de Jésus, il l'a entendu Bartimée, donc il m'a raconté l'histoire. Et Claudine me dit, mais il te l'a raconté quand? Mais il me l'a raconté l'année dernière, quand je l'ai vu. Je l'ai entendu raconter. Lui, il l'a vu. Il l'a vu. Donc c'est vrai. Et Marc continue. Bartimée, comme il a entendu que c'était Jésus, il a dit, fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Seulement, il y avait la foule. La foule, elle n'était pas contente que l'aveugle, il veuille attirer Jésus à lui. Alors la foule, elle lui a demandé de se taire. Écoute, fiche-nous la paix, Bartimée. Tu parleras plus tard, tu crieras plus tard. Pour l'instant, on est avec Jésus. Vous voyez, dans la petite pièce où Marc est rassemblé avec quelques personnes qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. On l'a invité pour parler. Il continue, il raconte. Et il raconte que finalement, Jésus dit, appelez-le. Alors, la foule, les disciples, ils vont vers Bartimée, il lui dit, écoute, confiance, lève-toi, il t'appelle. Et Bartimée, il est ravi, évidemment. Jésus l'appelle. Alors, il fiche en l'air son manteau, il bondit, et il se trouve au pied de Jésus. Et là, Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors à ce moment-là, il y a toujours Claudine qui me pose la question. Moi, je suis Marc. On est en 50 après Jésus. Il n'y a pas longtemps que Jésus est mort et ressuscité. Il y a Claudine qui dit, oui, mais pourquoi Jésus, il lui demande? Jésus, quand même, il devait savoir que c'était un aveugle. Ah, écoute, Claudine, moi je te raconte comme on me l'a raconté. Je ne sais pas ce que pensait Jésus. Je ne sais pas ce que pensait l'aveugle. Ce que je sais, c'est qu'il y a un apôtre qui m'a raconté l'histoire comme ça. Donc je te la raconte pareil. Ah bon, dit Claudine. Alors Marc, il continue l'histoire. C'est que, à la question de Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi ? Bartimée, il dit, Rabbouni, ça c'est un mot araméen qui veut dire mon maître, Rabbouni, que je vois à nouveau. Va, ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Et aussitôt, il vit à nouveau. Et il suit Jésus sur la route. Alors, vous voyez, il y a Marc, il est avec 8 personnes. Et puis, ils ont passé une soirée comme ça, autour de Jésus. Jésus, il n'est pas là, mais autour de l'histoire de Jésus. Et les gens, ils se sont mis à poser des questions. Mais tu es sûr que c'est vrai? Dit Marc, c'est vrai? Moi, je ne l'ai pas vu, dit Marc. Mais il y a un apôtre qui me l'a raconté, lui, il l'a vu. Et alors, peu à peu, on se raconte ça dans la communauté. Parce que vous, chacun, Chantal, elle rentre chez elle, Marie-Annette, elle rentre chez elle, Jérôme, il rentre chez lui. Il dit ça à ses enfants, à son mari, à sa femme, à son voisin, à la concierge, à l'épicier du coin. Dis donc, tu sais, hier, j'ai entendu Marc, il m'a raconté une histoire extraordinaire. C'est un monsieur, il s'appelle Jésus. Il a guéri un aveugle. Et en plus, le Marc, il a dit que ça pouvait encore arriver aujourd'hui. Que Jésus, il n'était pas seulement venu sauver les gens de son temps, mais qu'il était venu sauver les gens de tous les temps. Et alors, peu à peu, comme ça, dans la communauté, vous avez comme ça 8 personnes, puis finalement, au bout de 3 semaines, c'est plus 8, c'est une vingtaine. Et puis c'est plus un groupe, c'est 2-3 groupes, puis c'est 5-6 groupes, puis c'est le village d'à côté, puis c'est la ville d'à côté. Puis c'est plus seulement des juifs, mais c'est aussi des gens qui ne sont pas juifs. Et pour que tous ces gens comprennent, eh bien c'est parler en grec. Et au bout d'un moment, toutes ces histoires, je vous expliquerai pourquoi un autre jour, toutes ces histoires, on les a mises ensemble. Et ça a fait un évangile. Ça a fait un évangile. Et c'est pour ça que c'est écrit en grec. Pour ça que c'est écrit en grec. Tandis que l'Ancien Testament, le Premier Testament qui est écrit en hébreu, parce que c'était uniquement avec des gens qui parlaient hébreu d'abord et araméen ensuite. Voilà. Donc c'est une question de langue. Mais voyez déjà comment le livre de la Bible, c'est pas quelqu'un qui s'est mis à sa table. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on écrit un livre?
Mais il réfléchit d'abord la personne. Doit
voilà, et puis elle écrit.
Écrit après,
après c'est imprimé.
Imprimé.
Mais le monsieur ou la dame qui écrit, elle prend un morceau de papier, un crayon, puis elle met des mots, elle réfléchit, comme tu dis, elle veut dire quelque chose. Là, la Bible, elle n'a pas été écrite de cette manière-là. Elle a été écrite parce qu'elle a été parlée d'abord.
Par le Saint-Esprit.
Alors, par le Saint-Esprit, ça on reviendra là-dessus, mais elle a été parlée. C'est-à-dire qu'elle a été prêchée. Elle a été prêchée.
Racontée.
Elle a été racontée, exactement comme l'histoire de Bartimée, où vous avez un soir, Marc qui réunit 8 personnes. Et puis, il raconte. Il raconte ce qu'il a entendu de gens qui ont vu. Des gens ont vu, ils ont raconté, et alors, voilà. Marc, il n'a pas vu, mais il a entendu dire. Et vous, vous n'avez pas vu, vous avez entendu Marc. Et vous allez dire à d'autres. Et ceux-là, ils vont dire à d'autres. Et au bout d'un moment, pour qu'on puisse tout savoir, et avoir facilement, sans qu'il y ait nécessairement quelqu'un qui le raconte, on le met dans un livre. Et c'est en grec. Alors c'est en grec. Là on arrive aux alentours de 90 ou 100 après Jésus-Christ. Mais maintenant on est en 2017. Ah oui, qu'évidemment, ce livre grec, si je vous le donne à chacun, vous allez dire, ben, c'est sympathique, mais je ne comprends pas. Et c'est pour ça que on fait la traduction. C'est pour ça qu'on fait une traduction.
Mais le problème qui est jusqu'aujourd'hui, moi je vois sur le catégorie, chez le catégorie, sur le départ, il dit en grec. Il chante même en grec.
Oui, alors il y a des...
En cathédrale Notre-Dame, là, les femmes là qui chantent là, ils chantent en grec.
Oui, elles peuvent chanter en grec ou on chante en latin, on chante en différentes langues.
Rien, en fait.
On chante en différentes langues.
En français.
On peut chanter en différentes langues. Claudine.
La langue hébreu et la langue grecque. Et comment on a inventé la langue française alors?
Alors, les langues, c'est autre chose. C'est-à-dire, dans chaque... Il y a l'invention des langues. Hein. La première langue, elle est sans doute née dans l'Irak actuel. Hein, pas loin de Bagdad. Hein, voilà, dans toute cette région-là. C'est sans doute là qu'il y a eu la première langue au monde.
Hein?
C'était du mésopotamien. C'était une langue qui ne s'écrivait pas comme ça, mais qui s'écrivait avec des... qui s'écrivait comme ça.
Un dessin.
Un triangle et puis une barre. Et donc si on met un autre triangle comme ça, et avec une barre comme ça, voilà, ça fait une autre lettre. Donc, et c'est une écriture cunéiforme. Cunéi, ça veut dire un coin.
Hein?
On fait un coin et ensuite on fait un trait. Hein? On fait avec un voilà, sur la pierre, on tape, paf, ça fait un coin. Puis ensuite on tire un trait avec une sorte de clou. Voilà. Bon. Donc ça c'est la première langue. Et puis ensuite, il y a eu la naissance des langues. Et ça je peux pas vous répondre comment c'est né. Je sais pas comment est né le français. Je sais pas comment est né l'espagnol, l'italien, le grec, même l'hébreu. c'est né peu à peu, hein, des gens qui se sont réunis, qui ont parlé, et peu à peu la langue s'est formée. Mais je ne sais pas comment c'est né. Hein, c'est que la première langue date d'il y a plus de 5000 ans. Voilà. La langue écrite, hein, la langue écrite, les gens y parlaient avant, la langue écrite. La première écriture, avant les gens y parlaient. Hein, voilà. Mais ça, on ne sait pas ce qu'ils disaient, puisqu'il n'y avait pas encore d'enregistreur. Et donc, nous ne connaissons les langues qu'à partir du moment où on voit sur des pierres des choses qui sont écrites. Voilà. Bon. Hein ? Oui ?
D'après ce que j'ai compris, le Nouveau Testament, ça a été écrit sur ce qui a été raconté.
Oui.
Donc, si je prends l'Ancien Testament, si on pense la création.
Oui.
Quand Dieu a dit que. Quand il a créé de moi, oui. Il n'y avait personne.
Non.
Donc, qui c'est qui a raconté tout ça?
Eh bien, quelqu'un qui a inventé l'histoire. Alors, je raconte l'histoire de ça et puis on arrête là parce que c'est bientôt l'heure. Alors, je raconte cette histoire. Il y a un jour, des gens, on est aux alentours, mais ça n'a pas d'importance la date, hein, mais c'est pour vous situer, on est vers 580 avant Jésus. 580 avant Jésus. 580 années avant Jésus. Il y a une immense catastrophe qui se passe. Une immense catastrophe. C'est la ville de Jérusalem qui tombe aux mains des ennemis qui habitent l'Irak actuel. Les Babyloniens, ceux qui sont les habitants de Babylone. Et Babylone, c'est l'ancêtre, c'est la ville qu'il y avait avant Bagdad. C'est au même endroit. Donc, les armées qui viennent de l'Est, oui, voilà, vous avez Israël qui est là, et les armées viennent de l'Est, elles arrivent près de Jérusalem, et elles détruisent Jérusalem et le temple. Et tous ceux qui sont riches, les princes, les prêtres, les commerçants, les artisans, ils sont emmenés jusque vers Babylone. À des milliers de kilomètres de là, hein, ça n'a pas duré, il n'y a pas d'avion à cette époque-là. Hein. Donc, enfin des milliers, pas des milliers, mais de l'ordre de 1500 kilomètres, quelque chose comme ça. Donc, tous ces gens vont dans des caravanes avec des chameaux, etc. Ils vont jusqu'à Babylone. Et là, on les fait travailler. Ils sont esclaves. On les fait travailler. On les fait travailler dans les champs, on les fait travailler, voilà. Et le soir, ils se réunissent. Ils se réunissent et puis ils chantent. Ils pleurent. Et là, on le sait à cause des psaumes. Ils disent sur les bords du fleuve de Babylone, voilà, eh bien nous sommes là en chantant, mais aussi en pleurant. Ceux qui sèment dans les larmes, du verbe semer, ceux qui sèment dans les larmes, moissonnent en chantant. Et donc, vous pouvez imaginer, les gens ils sont tristes, ils se disent, mais Dieu, il nous a abandonnés. C'est exactement comme nous, quand il arrive une catastrophe, on dit, où est-ce qu'il est le bon Dieu ? S'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de guerre. S'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de misère. S'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas de maladie. Hein? Qui est-ce qui ne s'est pas dit ça une fois ? Quand il arrive une catastrophe, on dit, ben Dieu, il est où ? Dieu, qu'est-ce qu'il fabrique ? Pourquoi est-ce que Dieu est sourd ? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle ? Pourquoi est-ce qu'il est muet et qu'il ne parle pas ? Pourquoi il ne se déplace pas et ne vient pas faire qu'il y ait la paix sur la terre ? Donc, les Juifs qui ont été exilés près de Babylone, près de Bagdad d'aujourd'hui, l'Irak d'aujourd'hui, près de Babylone, les Juifs, ils se réunissent ce soir après le travail. Ils se disent, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il nous a abandonnés ? Est-ce que c'est le vrai Dieu ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé, finalement ? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? On peut se dire la même chose, nous. On peut se dire, bon, s'il m'arrive des choses malheureuses dans la vie, est-ce que je ne me suis pas trompé de Dieu ? Puisqu'il ne fait rien. Et donc ils se disent ça. Et ils se disent, c'est pas possible. Dieu ne nous a pas trompés. Dieu, il était avec nous quand même. Dieu était avec nous. Et la preuve qu'il était avec nous, c'est que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et à ce moment-là, ils réfléchissent sur la création. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y a des geôliers, des gardiens, des esclaves. Il y a les gardiens qui sans cesse vont dire aux juifs qui sont esclaves, vont leur dire « Eh là alors, et votre Dieu ?» Hein, le nôtre, il est plus puissant, il est plus fort. C'est le nôtre, le vrai Dieu. Le Dieu des Babyloniens s'appelait Marduk. Marduk. C'est Marduk qui est le vrai Dieu. Et alors, les Juifs, ils se disent, mais non, c'est notre Dieu qui est le vrai Dieu. Mais comment le prouver ? En se disant, mais c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et donc, il est plus puissant que tous les autres dieux. Et alors, on raconte que Dieu, le premier jour, il a séparé les eaux de la terre. Le deuxième jour, il a créé la lumière. Le troisième jour, il a créé le soleil et les étoiles, etc. Les animaux, les plantes. Finalement, le septième jour, il s'est reposé. Puis dans un second récit qui dit des choses différentes, donc il dit aussi qu'il a créé l'homme et la femme. Il y a deux récits de la création. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas une chose que ça s'est passé comme ça. Ça ne peut pas se passer de deux manières différentes. Et c'est parce qu'ils réfléchissent et ils se disent, mais ce Dieu, il est puissant. Il est tellement puissant qu'il a fait le ciel et la terre. Et puisqu'il est puissant comme ça, eh bien, il nous fera retourner en terre d'Israël. Et c'est ce qui arrive quelques années après, 50 ans après, en 539, les Juifs, grâce à l'empereur Cyrus, ils reviennent en Israël. Et il y a une deuxième histoire d'Israël qui commence. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que la Bible, en tout cas, tous les récits de la Genèse, de l'Exode, pas les récits des prophètes. Les prophètes, c'est des proclamations. Les gens, ils ont parlé et on a écrit ce qu'ils disaient. Mais tous les livres historiques, c'est des histoires que les gens se racontent pour dire, mais qui on est ? Qui on est ? Ça, c'est exactement la même chose, Marie-Annette. Je te dis, qui je suis ? Ton fils aîné, il peut te dire, mais maman, tu es qui ? Une fois que tu as dit, je suis Marie-Annette, ça ne suffit pas. Tu dis, ben écoute, voilà, écoute bien, je suis né à tel endroit. Mon père, il faisait ça. Et mon père, il m'a aussi dit que mon grand-père faisait ça. Et puis, je ne me rappelle plus, mais mon frère, je ne sais pas si tu as un frère, toi, mais j'imagine, mon frère, il m'a dit qu'il y a des voisins qui faisaient ça. Dans le pays où je suis né, voilà comment ça se passait. Et par toute cette histoire qui est racontée, ton fils y comprend qui tu es. Et là, c'est pareil. Le peuple d'Israël, ils comprennent qui ils sont en racontant leur histoire. Et ils la racontent. Ils disent, ben voilà, un jour, il y a un monsieur, il s'appelle Abraham, il était en voyage. Son père, c'était un fabricateur d'idoles. Il fabriquait des idoles. Mais Abraham, il ne voulait plus des idoles. Et un jour, il a compris que Dieu lui parlait au fond du cœur. Quitte ton pays et va vers un pays que je t'indiquerai. Alors Abraham, il prend sa femme, Sarah, il prend ses serviteurs, ses servantes, il prend ses troupeaux, il prend même son neveu qui s'appelle Lot, et puis il part. Et il part jusqu'en terre de Canaan, l'Israël d'aujourd'hui, et jusqu'en Égypte. Et donc, le peuple raconte cette histoire. On dit, mais finalement, le premier à qui Dieu est parlé, c'est Abraham. Et il y en a un qui dit, mais non, pas du tout. Dieu, il a parlé avant à quelqu'un. Ah bon, il a parlé à qui? Mais il a parlé à Noé. Ah, il a parlé à Noé. Mais oui, il a parlé à Noé. Et on raconte l'histoire de Noé avec l'arche de Noé.
Ah oui.
Et là, à ce moment-là, le peuple, il réalise qu'il n'y a pas seulement une alliance avec un petit peuple, le peuple d'Israël, mais qu'il y a une alliance avec tous les hommes de la terre. Noé, c'est une alliance avec tout l'univers, toute la terre. Et peu à peu, les gens comme ça qui se réunissent, alors là ils sont plus 8, ils sont, c'est quelques dizaines, hein, c'est quelques centaines même, et ce sont des écrivains, ce sont des prêtres, ce sont des artisans, ce sont des commerçants, et ils réfléchissent sur la foi. Et cette réflexion sur la foi, ça a donné la Bible. En tout cas, ça a donné celle-là, c'est-à-dire celle qui est écrite en hébreu, qu'on appelle en français l'Ancien Testament ou le Premier Testament. Donc c'est une histoire qui est racontée. C'est pas tout d'un coup. Alors évidemment, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a pris un stylo, les stylos n'existaient pas à l'époque, hein, qui a pris un pinceau, et puis qui, sur des parchemins, il a écrit. Il a écrit pourquoi? Pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie pas. Donc il a écrit. Une fois que c'est écrit, eh ben voilà, on sait que c'est comme ça. Donc ça veut dire que si toi, Marie-Annette, ce soir, tu veux raconter à ton fils un texte de la Bible, peu importe si tu ne te rappelles plus dans ta tête, tu ouvres le livre et tu lis. Et voilà. Eh bien, c'était exactement comme ça il y a 2000 ans. Le texte a été écrit pour qu'on s'en rappelle. Et il y a beaucoup de civilisations, encore aujourd'hui, où on n'écrit pas. Et aujourd'hui, on n'écrit pas, mais on raconte. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, qu'on appelle des ethnologues, qui vont dans des peuples qui n'ont pas encore, qui n'écrivent pas, pour écouter ce qui se raconte et les écrire pour que ce ne soit pas perdu, parce que c'est un trésor de l'humanité, et notamment les contes, les histoires. Oui. Les histoires qu'on raconte aux enfants. Mais les histoires qu'on raconte aux enfants, ça veut toujours dire quelque chose. Donc on dit, hein, on va voir le vieillard, c'est le seul qui continue à se rappeler un conte. On lui dit, mais monsieur, vous pouvez me raconter? Alors le monsieur, il raconte, et pendant ce temps-là, on écrit pour ne pas perdre la parole. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça que s'est écrit la Bible.
Ah, moi, j'ai quand même drôlement épaté, même parce que quand tu racontes ça, ça me fait penser que finalement, Dieu n'est pas qui a créé le ciel et la terre, personne ne l'a vu.
Non.
Cependant, les gens ont cru tout ce qui a été dit après.
Oui, oui.
C'est formidable.
Alors c'est là où il y a l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous... Quelle est la différence entre... eux? Puis on va arrêter là, hein, mais quelle est la différence entre ce livre, la Bible? Et puis n'importe quel livre que vous pouvez aller acheter demain matin dans le libraire qui est le plus près de chez vous, c'est qu'il y en a un, c'est la parole de Dieu, et l'autre, c'est un livre très intéressant, mais c'est un livre. Oui. Tandis qu'il y en a un, c'est la parole de Dieu. Et comment on sait que c'est la parole de Dieu? Alors ça, on en parlera tout au long de l'année, mais on peut déjà dire maintenant, on sait que c'est la parole de Dieu parce qu'on croit que c'est la parole de Dieu. En fait, il n'y a pas de preuve que c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de preuve de Dieu non plus.
Hein? Ils l'ont vécu.
Voilà.
C'est pour ça qu'il y a une preuve que c'est la parole.
Voilà. Alors, on le vit.
C'est marqué et on le vit, et devant les épreuves, on le vit.
On le vit, mais alors, on dit, par l'action de l'Esprit Saint,
oui,
parce qu'il n'y a pas de preuve, par l'action de l'Esprit Saint, on dit c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle. Voilà. C'est Dieu qui me parle.
Il y a des choses qui sont notées, mais après, quand on est enfant, on dit mais comment ? Il n'y a personne qui a été pour venir ou nous expliquer, et après, avec le temps, on découvre. Et le Saint-Esprit nous parle et nous montre aussi.
Oui, tout à fait.
Et c'est comme ça qu'on découvre la vérité.
Oui.
Et on dit, c'est pas du n'importe quoi.
Non, c'est ça, c'est pas du n'importe quoi.
Et quand on est enfant, on se demande.
La Bible, c'est pas du n'importe quoi, parce que lorsqu'on la lit, on s'aperçoit qu'elle a un effet.
Oui.
Elle a un effet. Comme tu dis, elle a un effet. Elle dit ce qu'on vit. La Bible dit ce qu'on vit.
Finalement, c'est vraiment, si je puis dire, un outil vraiment merveilleux. Quoi.
Oui,
ah oui,
oui, tout à fait.
Sinon, oui. Ben, après, je ne sais pas ce qu'on serait exactement, mais
oui, oui.
On serait tous des athées, des, je ne sais pas.
Ah ben, voilà.
Exactement.
Voilà, voilà. Alors, c'est pour ça, mais on verra ça les prochaines fois, mais que sans la Bible, en fait, on ne peut pas connaître Dieu.